Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Bukele a été inauguré pour le deuxième mandat présidentiel du Salvador ». Le président condamne fermement l'attaque israélienne contre Rafah. Prabowo demande aux États-Unis et à la Chine d'être sages pour ne pas provoquer de désastres. La Corée du Nord a envoyé environ 600 nouveaux ballons remplis de déchets. L'exposition Deep and Extreme Indonesia 2024 renforce le tourisme d'intérêt particulier. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le président salvadorien Nayib Bukele a prêté serment pour un second mandat samedi, levant la main au palais national de la capitale San Salvador devant une foule. Selon l'AFP, cet homme de 42 ans, qui se qualifie de dictateur cool et dont le Parti des Nouvelles a dominé les élections législatives grâce à une répression anti-gangs brutale mais populaire, gouvernera encore 5 ans avec un contrôle presque total sur les institutions étatiques. Le président Joko Widodo condamne fermement l'attaque militaire israélienne contre Rafah en Palestine. Cette affirmation a été transmise en réponse à la récente escalade de la violence. Lors d'une visite de travail dans la ville de Dumai Riau samedi, le président a déclaré qu'Israël doit se conformer au droit international, y compris aux ordres de la Cour internationale de justice, de mettre fin à son offensive contre la Palestine. Auparavant, la Cour internationale de justice avait ordonné à Israël de cesser ses attaques contre Rafah. La décision a été rendue vendredi dernier. Dans sa décision citée sur son site officiel, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser immédiatement ses attaques militaires et autres actions dans le gouvernorat de Rafah qui pourraient entraîner des conditions de vie pour les groupes palestiniens à Gaza qui peut provoquer une destruction physique totale ou partielle. En outre, Israël doit également maintenir ouvert le terminal de Rafah pour permettre la fourniture sans entrave des services de base et de l'aide humanitaire dont il a un besoin urgent. Le président élu et ministre de la Défense Prabowo Subianto a déclaré samedi, lors du dialogue Shangri-La à Singapour, que les dirigeants de grands pays comme la Chine et les États-Unis devraient faire preuve de sagesse. parce qu'ils sont non seulement responsables de diriger leur pays, mais qu'ils ont également des responsabilités de leadership mondial. Selon Prabowo, une solution possible consiste à accroître la collaboration et une bonne coopération entre les pays. Il estime que la coopération dans les domaines de la science et de la technologie peut améliorer la qualité de vie des citoyens. Cependant, si la science et la technologie ne sont pas utilisées à bon escient, elles entraîneront un désastre. L'armée sud-coréenne a rapporté dimanche que la Corée du Nord avait envoyé environ 600 ballons remplis de détruits lors d'une nouvelle attaque. Les ballons contiennent de tout, des mégots de cigarettes au plastique traversant la frontière. Selon l'AFP, les chefs d'état-major inter-armées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué que le ballon était lancé à une vitesse de 20 à 50 par heure par voie aérienne et ont ajouté que le personnel de sécurité récupérait les ballons à leur atterrissage. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Salahuddin Uno a apprécié l'exposition Deep Extreme Indonesia 2024 qui a assuré l'éducation, la promotion et renforcé le développement du tourisme d'intérêt particulier dans le pays. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno, lors de son examen de l'exposition Deep and Extreme Indonesia 2024, ou abrégé en DXI au JCC Senayan Jakarta dimanche, a déclaré que DXI 2024 non seulement introduit et développe l'industrie de l'eau et des sports extrêmes, mais ouvre également de nouveaux marchés pour renforcer l'industrie du tourisme en Indonésie. Dans un communiqué officiel, Sandiaga a déclaré que le DXI 2024 avait connu une augmentation assez significative par rapport à l'année dernière, avec la présence de nouveaux produits en provenance du pays. DXI ou Deep and Extreme Indonesia est l'une des plus grandes expositions jouant un rôle dans le développement de marchés et des industries du secteur du tourisme maritime. Cette année, DXI porte le thème Edge of Tomorrow, Dive into the Depth of Extreme Sport. Ce thème reflète la beauté naturelle infinie de l'Indonésie avec des océans, des montagnes, des falaises et des vallées qui sont des destinations potentielles pour toutes sortes de sports qui font monter l'adrénaline. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président Joko Widodo rencontre le secrétaire général de l'OCDE pour discuter du processus d'adhésion de l'Indonésie ». Le président Joko Widodo a rencontré mardi le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou abrégé en OCDE, Matthias Korman, au palais présidentiel de Bogor pour discuter, entre autres, de l'engagement de l'Indonésie à devenir membre à part entière de l'organisation dans un délai de 3 ans. Le ministre coordinateur de l'économie, Airlangga Hartarto, a déclaré que le président avait formé une équipe pour accélérer l'adhésion de l'Indonésie en tant que pays membre permanent de l'OCDE. Ceci est conforme au décret présidentiel numéro 17 de 2024 concernant l'équipe nationale pour la préparation et l'accélération de l'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE, où l'équipe nationale de l'OCDE, présidée par Airlangga Hartarto, accompagnée du ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati et du ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi. Le processus d'adhésion de l'Indonésie pour devenir membre permanent de l'OCDE, a déclaré Airlangga, sera également intégré au développement à moyen terme. Airlangga Hartarto a déclaré que l'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique ou OCDE pourrait augmenter les investissements jusqu'à 0,37% et soutenir une augmentation du produit intérieur brut de 0,94%. Airlangga a estimé que l'augmentation des investissements profiterait au monde des affaires en créant davantage d'emplois, notamment pour les micro, petites et moyennes entreprises. Selon Airlangga, l'adhésion à l'OCDE joue un rôle important pour permettre à l'Indonésie d'échapper au piège du revenu intermédiaire. Pour atteindre ces objectifs, un travail conjoint est nécessaire qui implique les aspirations de toutes les parties prenantes. L'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE jouera un rôle important en encourageant la transformation économique afin de réaliser la vision d'une Indonésie dorée à l'horizon 2045. Ceci est lié aux principes de l'OCDE de bonne gouvernance, de transparence et de croissance inclusive qui sont tout à fait conformes à la vision de l'Indonésie d'atteindre le progrès et prospérité. En 2045, l'Indonésie vise à atteindre une Indonésie dorée qui comprend un revenu national brut par habitant de 30 300 dollars américains, une société de classe moyenne composée de 70% de la population et un produit intérieur brut de 9 800 milliards de dollars américains. Parallèlement, le vice-ministre des Finances, Suhasil Nazara, a déclaré que le gouvernement indonésien avait commencé à préparer un premier mémorandum à soumettre à l'OCDE dans le cadre de son adhésion en tant que membre à part entière de l'organisation. Il a déclaré que le mémorandum initial faisait partie du processus d'adhésion pour devenir membre à part entière de l'OCDE, puisque l'Indonésie y participe en tant que pays partenaire depuis 2007. En dehors de cela, l'Indonésie est également devenue coprésidente avec le Japon dans le lancement du programme de l'OCDE pour le programme régional pour l'Asie du Sud-Est en 2014. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 2 juin. Le 2 juin 1946, le référendum institutionnel italien de 1946 est devenu le premier record de l'histoire d'aujourd'hui de Voice of Indonesia. Le référendum institutionnel était un référendum organisé en Italie le 2 juin 1946. Jusqu'en 1946, l'Italie était un royaume dirigé par la Maison de Savoie. Cependant, le premier ministre italien Benito Mussolini a mis en œuvre un système fasciste et a entraîné l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne nazie. Ce référendum a eu lieu après la défaite de l'Italie dans la guerre. La majorité des électeurs lors de ce référendum voulaient un système républicain, c'est pourquoi la République italienne a été fondée en 1946. Le 2 juin 1964, l'Opération de libération de la Palestine, ou OLP, a été fondée. L'Organisation de libération de la Palestine est une organisation créée dont le but était de libérer la Palestine. L'organisation est reconnue comme la représentante légitime du peuple palestinien par son pays et bénéficie du statut d'observateur auprès des Nations Unies depuis 1974. Lors de son premier sommet au Caire en 1964, la Ligue arabe a lancé la création d'une organisation représentant le peuple palestinien. Le Conseil national palestinien s'est réuni à Jérusalem le 28 mai 1964. OLP a été fondée le 2 juin 1964. Le 2 juin 1967, le décès de Benno Hohnessorn. Benno Hohnessorn était un étudiant allemand tué par un policier le 2 juin 1967 lors d'une manifestation à Berlin contre la visite du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, en Allemagne. Sa mort a uni les étudiants radicaux de gauche et le mouvement du 2 juin a été formé et a pris le nom de la date de la mort d'Hohnessorn. Un monument commémorant la mort d'Hohnessorn a été érigé à Berlin et dans sa ville natale de Hanovre. Un pont sur la rivière Ime a été nommé en son honneur. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta bisa kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Super.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voici mon Indonésie intitulée Le WSL Krui Pro 2024 se tiendra sur la côte ouest de Lampung. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a officiellement inauguré la World Surf League, ou abrégé en WSL, Krui Pro 2024, dans la région de côte ouest Lampung. Dans son discours d'ouverture mardi à côté ouest, le ministre Dito Aryo Tejo a déclaré qu'il appréciait vraiment la tenue du championnat international annuel de surf dans la région de la côte ouest. Le ministre Dito s'est dit très fier du WSL Krui Pro sur la côte ouest de Lampung, où le championnat de surf a réuni 265 participants de 20 pays. En dehors de cela, il espère que les jeunes surfeurs indonésiens pourront apprendre de la WSL Krui, étant donné que le surf est un sport olympique où les surfeurs indonésiens ont remporté des billets pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. En dehors de cela, selon le ministre Dito, le championnat World Surf League 2024, ou WSL Krui Pro, est également un effort pour relancer les secteurs touristiques et économiques de la région de Lampung. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a constaté que la série WSL, partant de Krui, et sa mise en œuvre avait un impact énorme sur l'économie et le tourisme. Avec une série d'activités pour accueillir la WSL et des compétitions de surf, cela augmentera automatiquement le potentiel touristique de l'Indonésie ainsi que l'économie des habitants de la province de Lampung, en particulier de la région de la côte ouest. Pendant ce temps, le gouverneur de Lampung, Arinal Junaidi, a invité l'ensemble de la communauté à continuer de développer le potentiel existant dans la région de la côte ouest. À l'avenir, son parti souhaite travailler ensemble pour faire progresser davantage le potentiel de la côte ouest et il travaille dur pour faire progresser Krui Pro afin qu'il devienne plus de classe mondiale. Selon Arinal Junaidi, l'un des efforts pour l'emmener au niveau mondial consiste à fournir des installations telles qu'un aéroport afin qu'à l'avenir, la région de la côte ouest soit plus facilement accessible afin de mieux se faire connaître dans le monde. Le championnat international de surf WSL Krui Pro 2024 a réuni 265 athlètes de 20 pays et s'est déroulé sur la plage de Tanjung Setia du 28 mai au 4 juin 2024. Les autres vagues sur la côte de la plage de Krui ont contribué à couronner l'événement Krui Pro pour atteindre le niveau de vague le plus élevé, à savoir QS 5000.
Jantungku terpompa setiap kita bertemu. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine culturel. Chers auditeurs, la plage Anora est située à la pointe nord de l'île de Karimun Jawa, précisément au hameau de Cikmas, district de Karimun Jawa, région de Jepara, Java Central. Depuis le port de Karimun Jawa, la distance à parcourir est d'environ 7 km. Pendant ce temps, pour aller à Karimun Jawa, il faut d'abord aller à Jepara, puis prendre un ferry jusqu'à l'île de Karimun Jawa. Si vous partez de Semarang, vous pouvez prendre un bateau depuis le port de Tanjung Mas jusqu'à Karimun Jawa ou prendre un avion depuis l'aéroport Ahmad Yani de Semarang jusqu'au mini-aéroport de Karimun Jawa. La plage Anora est située dans un endroit assez isolé. La route est également étroite, assez grande pour une voiture et il n'y a pas de transport en commun. Les visiteurs doivent donc utiliser leur propre véhicule. Chers auditeurs, même si elle est située dans un endroit plutôt isolé, la plage d'Anora n'est pas moins belle que les autres plages de Karimun Jawa. L'eau claire nous permet d'y observer diverses espèces marines. Le sable blanc propre et doux constitue également une attraction particulière. Parce que l'endroit n'est pas trop fréquenté, les visiteurs peuvent se détendre sur la plage en profitant de la brise marine fraîche. Sur cette plage, les visiteurs peuvent également nager, faire de la plongée avec tuba ou simplement jouer dans l'eau sur la plage. Si vous souhaitez passer la nuit devant un feu de camp, vous pouvez également installer une tente sur la plage. Outre les belles plages, les visiteurs peuvent également visiter la colline Anora, située au bord de la plage. Du sommet de la colline Anora, les visiteurs peuvent profiter d'une vue imprenable sur la plage, ainsi que de magnifiques levers et couchers de soleil. Chers auditeurs, ne manquez pas l'occasion de visiter la plage d'Anora qui possède un charme exotique. Ici, vous pouvez explorer sa beauté naturelle, profiter de l'atmosphère calme et capturer de belles vues qui peuvent rendre vos vacances encore plus mémorables.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, 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 oh. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, guna gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est « Taxi volant dans la capitale de Nusantara ». La capitale de Nusantara est conçue pour être une ville sophistiquée et durable. Les taxis volants ou Sky Taxi seront l'une des technologies qui seront présentes dans la nouvelle capitale indonésienne. Selon les députés chargés de la transformation verte et numérique de l'autorité de la capitale de l'archipel, ou OIKN, Mohamed Ali Berawi, un essai de taxis volants sera réalisé par le géant sud-coréen Hyundai en juillet 2024. Auparavant, la fourniture de services publics de transport sous forme de taxis volants a été testée à l'aéroport de Budiarto à Curug, Tangerang. Les taxis volants utilisent la technologie des batteries et sont capables de voler jusqu'à une distance de 100 km. Alors, si les gens souhaitent voler de la ville de Balikpapan, Kalimantan de l'Est, à Palu, Sulawesi Central, ils peuvent voyager directement sans transit. Ali Berawi a expliqué que le taxi volant testé hier à l'aéroport de Budiarto était de la marque Ehang, un produit chinois d'une capacité de 2 passagers. Pendant ce temps, le taxi volant de la marque Hyundai sud-coréenne, qui sera bientôt testé à Samarinda en juillet 2024, a une capacité plus grande, jusqu'à 5 personnes. Ehang et Hyundai, une autre marque de taxi volant qui entrera dans la capitale de Nusantara et Boeing Wings des États-Unis. Ali a expliqué que l'Indonésie avait créé une équipe technique composée de Hyundai et Dirgantara Indonesia SARL. Cela a été fait dans le contexte du développement futur des taxis volants.
Bertahan, sadar ku tak berhak untuk terus.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, cette fois, je parle d'une chanson de Maudie Ayunda. Ayunda Faza Maudia, connue sous le nom de Maudie Ayunda, est une actrice, mannequin, écrivaine et chanteuse indonésienne. Cette fois, Maudie a décidé de raviver sa relation avec la musique pour transmettre l'histoire de sa vie personnelle à travers son écriture et sa chanson intitulée « Cahaya ». À travers Cahaya, Maudie explore la beauté de l'amour et sa complexité. Il la compare à une lumière qui éclaire comme une source d'espoir et de chaleur, tandis que son absence devient peur et vide. Cahaya, ou en français la lumière, représente la figure du mari de Maudie Ayunda, Jesse Choi, qui l'a inspiré pour réaliser ses derniers singles. Cette chanson écrite par Maudie Ayunda elle-même était aussi un cadeau pour leur anniversaire de mariage. Bon, chers auditeurs, voici Maudie Ayunda dont le titre est Cahaya. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Hidupku
Voice of Indonesia.
Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila. Kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.